VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
Le président américain Donald Trump annonçant hier sa décision tant attendue sur le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 par Téhéran avec les grandes puissances. Bonjour, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 9 mai 2018 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Tout à l'heure, le reste de l'actualité, la Minute Éco, les sports et nos magazines du jour.
Mais nous commençons par ce développement donc sur le dossier iranien, bien que la décision du président Trump n'ait surpris personne.
Oui, M. Trump n'a fait que rendre officielle hier à la Maison-Blanche une position qu'il a toujours défendue contre cet accord multilatéral, répétant qu'il s'agit d'un horrible accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être conclu. Il a aussi annoncé la réimposition immédiate contre l'Iran de toutes les sanctions relatives au nucléaire, levé par son prédécesseur Barack Obama, en contrepartie de l'engagement iranien à ne pas se doter de l'arme atomique. Il a aussitôt, après, signé un mémorandum donnant des ordres en ce sens à toutes les agences gouvernementales américaines.
Le président Trump a simultanément promis d'étendre ses sanctions, je cite, à tout pays qui essaierait d'aider l'Iran à acquérir la bombe atomique. L'accord a été conclu en 2015 après d'âpres négociations entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne. Mais selon le président américain, il est clair que ce document n'a pas amené la paix et ne le fera jamais, et ses clauses actuelles n'empêcheront pas l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. L'Amérique, a-t-il assuré, ne se laissera pas prendre en otage par le chantage nucléaire.
De proches alliés européens des États-Unis, dont le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, avaient exhorté le président Trump à ne pas se retirer de l'accord. Mais de l'avis des observateurs, ses nouveaux conseillers, le secrétaire d'État Mike Pompeo et John Bolton, directeur du Conseil national de sécurité, considérés comme des faucons, ont fini par avoir le dessus.
Réaction mitigée au Congrès des États-Unis. Les leaders démocrates ont fustigé la décision du président Trump, tandis que leurs homologues républicains ont applaudi. Avec Jean-Roger Bion, les autres réactions.
Ici aux États-Unis, l'ex-président démocrate Barack Obama est sorti de sa réserve avec un ton particulièrement ferme pour défendre le texte conclu sous son administration. C'est une grave erreur, a-t-il martelé. Et en Iran, le président Hassan Rouhani a accusé son homologue américain de pratiquer, je cite, « une guerre psychologique ». Dans un communiqué commun, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May, qui s'étaient tous trois investis en vain pour tenter de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord, se sont dit déterminés à assurer la mise en œuvre de ce texte en maintenant les bénéfices économiques au profit de la population iranienne. Les Européens devraient d'ailleurs poursuivre ce mercredi leur concertation pour sauver le compromis de 2015. Moscou a aussi fait part de sa profonde déception et de son extrême inquiétude. Dans la région, la Turquie a dit craindre de nouveaux conflits, tandis que la Syrie a condamné avec force l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord, affirmant sa totale solidarité avec Téhéran. En revanche, le Royaume sunnite d'Arabie saoudite, grand rival régional de l'Iran, chiite et Israël, soupçonné d'être le seul pays du Moyen-Orient à disposer d'un arsenal nucléaire, soutiennent totalement le président Donald Trump. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a d'ailleurs qualifié cette décision de courageuse.
Pourquoi le président Trump a-t-il pris une telle décision malgré l'opposition de ses alliés européens? Bagassi Koura a posé la question à Brian Newbert, un des porte-parole du département d'État américain.
Le président Trump prend cette décision de se retirer de l'accord nucléaire pour la sécurité des États-Unis. Ça, c'est l'essentiel. D'après le président, il y a plusieurs problèmes dans cet accord nucléaire qu'il appelait désastreux. Et il faut se rendre compte que l'Iran a toujours l'intention de développer des armes nucléaires.
Il a aussi dit que les sanctions vont être immédiates. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous allons avec la réapplication de nos sanctions, mettre une pression maximale sur l'Iran, et ça veut dire que les entreprises et n'importe quelle société qui ont des obligations en ce qui concerne la loi des États-Unis doivent gérer. Mais bien sûr, ça va mettre encore du pression sur le régime de Téhéran.
Qu'est-ce que vous comptez faire avec les Européens pour trouver une solution intermédiaire s'il y a une possibilité?
Les États-Unis restent disponibles, négocier un accord qui sera acceptable, qui pourrait rassurer et améliorer la sécurité des États-Unis. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire pendant plusieurs mois et nous restons disponibles. Mais pour les États-Unis, la menace d'Iran, pas uniquement dans les éléments nucléaires, mais dans d'autres éléments, l'Iran menace ses voisins, déstabilise la région, soutient le terrorisme et sont toujours en train d'exporter des armes aux groupes extrémistes. Donc il faut que les États-Unis et nos alliés européens cherchent une solution durable qui pourrait protéger notre sécurité, c'est-à-dire un meilleur accord.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi craindre des tensions dans le Moyen-Orient par cette décision-là?
Je pense que pour les États-Unis, comme je disais, l'Iran est une menace. Ils menacent leurs voisins, ce qui n'est pas acceptable. Le président Trump a pris cette décision parce qu'il pense que ça ne protège pas la sécurité des États-Unis, ça n'avance pas les intérêts des États-Unis en général et en particulier dans la région du Moyen-Orient. Et donc, nous allons continuer à gérer cette situation et faire avancer nos intérêts. Mais pour les États-Unis, cet accord n'est pas le moyen.
C'était Brian Newbert, un des porte-parole du Département d'État américain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité en Afrique maintenant. En République centrafricaine, la société civile appelle à l'observation d'une nouvelle journée ville morte ce mercredi. Journée de protestation en réaction au regain de tensions à Bangui et à l'intérieur du pays. Le point avec Freeman Sipila, correspondant VOA Afrique à Bangui.
Le groupe de travail de la société civile, GSTC, a d'abord mis la barre haute avant de faire marche arrière. Lundi, il a appelé à l'observation de 3 jours de ville morte du 9 au 11 mai avant de ne maintenir que la journée du mercredi à la suite d'une rencontre avec le gouvernement. Pour les organisateurs, le gouvernement et la MINUSCA ne font rien pour protéger la population et asseoir la paix. Paul Cresson Beninga, porte-parole du GTSC.
Ceci effectivement pour dénoncer et nous n'allons plus céder si le gouvernement ne nous donne pas des réponses. Ferme. Nous allons continuer ces actions et c'est l'occasion ici pour nous de dire à la coalition sud-africaine de faire très attention. Si vous pensez que le gouvernement ne réagit pas, ça suffit pour vous de marcher sur Bangui, vous allez trouver sur vos chemins la population parce que nous allons organiser une défense populaire. Nous allons demander à tous les centrafricains, nationalistes, patriotes de se lever comme un seul homme pour défendre la patrie.
Le gouvernement et la MINUSCA contre cette initiative ont appelé au boycott du mot d'ordre de la société civile. Vendredi dernier, la capitale centrafricaine était paralysée suite à une journée ville morte observée à la demande du GTSC en réaction à l'attaque contre l'église catholique de Fatima, attaque soldée par une vingtaine de morts et près de 200 blessés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les autorités ont accusé hier l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre prochain, d'avoir voulu recruter des mercenaires pour ouvrir des hostilités en Ituri, dans le nord-est, dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police, Piero Mwananputu, qui dit s'appuyer sur les aveux d'un émissaire présumé. Moïse Katumbi, qui vit en Belgique, risque d'aller en prison s'il revient en RDC après sa condamnation dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. M. Katumbi, qui est également poursuivi pour recrutement présumé de mercenaires, est aussi accusé d'avoir eu la nationalité italienne alors que la nationalité congolaise est exclusive.
Toujours en RDC, le virus Ebola est de retour. 2 cas ont été confirmés à Bikoro, dans la province de l'Équateur, après analyse de quelques échantillons à Kinshasa. Le gouvernement congolais, qui annonce qu'aucun décès n'a été enregistré jusqu'ici, dit s'organiser pour la riposte. C'est la 9e épidémie de fièvre hémorragique Ebola en RDC depuis 1976. La dernière avait été éradiquée il y a 10 mois. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Notre pays fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a annoncé Lambert Matuku, ministre du Travail qui assume l'intérim du ministre de la Santé Oli Ilunga en mission. Deux cas d'Ebola ont été identifiés à Bikoro dans la province de l'Équateur où 5 échantillons avaient été prélevés sur des cas suspects d'Ebola signalés depuis le 3 mai dernier. L'Institut national de recherche biologique en a décelé 2 positifs, mais aucun décès n'a été signalé parmi les personnes hospitalisées ou parmi le personnel de santé, précise le communiqué. Le ministère de la Santé a par ailleurs indiqué qu'une équipe d'experts du niveau central part de Kinshasa ce mercredi vers Bikoro avec un lot d'équipements appropriés pour superviser les investigations et l'organisation de la riposte sur le terrain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le soutien logistique de l'ONU à la force G5 Sahel n'est pas à la hauteur du défi, alors que la situation sécuritaire au Sahel continue de se détériorer. C'est ce qu'a estimé dans un récent rapport le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'apport de l'ONU, prévu par une résolution du Conseil de sécurité, un accord technique conclu en début d'année, entre la force des casques bleus MINUSMA au Mali et la force G5 Sahel, formée par 5 pays, Tchad, Mauritanie, Mali, Niger et Burkina Faso, doit se matérialiser de façon plus concrète et tangible, juge le secrétaire général dans ce document obtenu mardi par l'AFP.
D'autre part, Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a déclaré hier que malgré les succès militaires obtenus contre les djihadistes de Boko Haram, il faudra des années pour éliminer complètement le groupe. Ce que nous voyons, c'est que Boko Haram fait désormais partie du réseau international du terrorisme, a continué M. Chambas, en marge d'un sommet régional du lac Tchad à Maïdougouri, capitale de l'État nigérian de Borno, qui a vu naître Boko Haram.
En Guinée, un dirigeant syndical interpellé dimanche dans la région minière de Boké a été inculpé mardi pour notamment incitation à la révolte, a indiqué son avocat à l'AFP. Un responsable de l'UGTG, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a dit que Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de ce syndicat, a été interpellé dans cette zone riche en bauxite alors qu'il effectuait une tournée pour syndiquer les travailleurs afin, je cite, d'ouvrir leurs yeux sur tout ce qui se passe au niveau de leurs entreprises.
À Madagascar, la commission électorale a proposé hier d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année 2018 afin de sortir de la crise qui secoue la grande île depuis fin avril. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Selon l'article 52 de la constitution malgache, il est possible de tenir une élection anticipée, d'après Eri Rakotomanan, président de la commission électorale nationale indépendante. Si cette solution convient à la fois au gouvernement et à l'opposition, la CENI propose déjà la date du 29 août 2018 pour le premier tour de la présidentielle. La commission électorale invite les parties prenantes à discuter vendredi de cette nouvelle option. En janvier, la CENI avait annoncé que les élections se tiendraient entre le 25 novembre et le 25 décembre. Il revenait au gouvernement de fixer une date précise. Si les élections anticipées ne font pas l'unanimité, la commission propose d'organiser les scrutins le 28 novembre ou les retarder au 29 mai 2019. L'opposition qui réclame la démission du président malgache a d'ores et déjà rejeté ces propositions.
Un responsable du bureau présidentiel sud-coréen cité par l'agence de presse Yonhap a déclaré, selon l'AFP, que la Corée du Nord pourrait libérer 3 Américains mercredi au moment où le secrétaire d'État américain Mike Pompeo effectue une visite à Pyongyang. M. Pompeo est arrivé à Pyongyang pour discuter des préparatifs du sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Sommet dont la date et le lieu n'ont pas été officiellement annoncés jusqu'à présent. Le président Trump s'était montré de son côté optimiste, citant le soutien de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon aux efforts de M. Pompeo.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé qu'au moins 9 combattants appartenant aux gardiens de la révolution iranien ou aux milices chiites pro-iraniennes ont été tués mardi soir dans un tir de missile israélien visant un secteur proche de Damas. De son côté, l'agence de presse officielle syrienne Sana fait état de la mort de 2 civils dans la province de Deraa, proche de Damas, causée par le tir de missile. Israël n'a pas fait de commentaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Minute Éco, Eric Monirakiza.
Le déficit de prix aux planteurs de noix de cajou en Côte d'Ivoire entraîne la contrebande vers les pays voisins. La fuite de la production a été massive en 2017 vers la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Les quantités détournées seraient de 20 000 à 50 000 tonnes pour près de 8 milliards de francs CFA. Le secteur ivoirien compte 250 000 producteurs. Abidjan va sévir jusqu'à 10 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende pour tout trafic hors des frontières. Reprise des négociations sur le commerce sino-américain la semaine prochaine à Washington. C'est pour éviter une guerre commerciale entre les deux puissances, d'après la Maison-Blanche. Une première session de pourparlers jeudi et vendredi dernier à Pékin avec une délégation américaine n'a pas permis de débloquer le contentieux commercial, notamment sur le colossal déficit des échanges des États-Unis avec la Chine. Coopération controversée entre l'OIT et l'industrie du tabac. Depuis 2002, l'OIT a reçu plus de 15 millions de dollars de la société Japan Tobacco International et de groupes liés à quelques-uns des plus grands fabricants de tabac. Le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail devra décider en novembre sur la poursuite ou non de cette coopération. Le conseil est divisé. Le groupe des employeurs considère qu'il est légitime et approprié de continuer à recevoir un soutien financier de l'industrie du tabac. Le groupe des employés sont plus hésitants à ce sujet et les gouvernements sont divisés.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tour cycliste du Bénin.
La première étape entre Tanguyeta et Djougou, remportée par un Burkinabé, Yarbanga Salifou, qui devance ses deux compatriotes, Ilboudo Haruna et Bikenga Salfo. C'est le même Yarbanga Salifou qui empoche le maillot jaune de leader. La deuxième étape, c'est ce mercredi, 125 km entre Djougou et Parakou.
Report d'un match en Ligue africaine des champions.
Oui, la rencontre Mamelodi Sundowns-Oroya pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions a été reportée d'une semaine. Elle était initialement prévue le 15 mai. Mais elle a été déplacée à la demande du club sud-africain et après accord du club guinéen, annonce hier de la Confédération africaine de football. Le match aura lieu le 22 mai prochain au stade du 28 septembre à Conakry. La raison, c'est tout simple, le match amical programmé à la même date entre les Sud-Africains et le FC Barcelone. L'autre rencontre du groupe C entre le WAC Casablanca et l'AS Togoport aura bien lieu, elle, le 15 mai au stade Mohamed V à Casablanca.
Suite de la saga Griezmann.
Oui, le président du club madrilène, Enrique Cerezo, a refusé d'alimenter les spéculations grandissantes autour d'un possible départ de l'attaquant français vers Barcelone. Il a également démenti au passage avoir déjeuné avec le joueur. À 27 ans, Griezmann a entretenu ces derniers mois l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, le club avec lequel il joue depuis 2014. Le leader de l'attaque de l'équipe de France annoncera son choix avant le début de la Coupe du Monde le 14 juin prochain.
La Juventus en route pour un dernier titre cette saison.
La Juventus Turin, triple tenante de la Coupe d'Italie, est quasiment assurée d'un septième scudetto d'affilée et favorite contre le Milan AC de Gennaro Gattuso. Ce sera ce soir en finale à Rome. Et puis avec vous Idrissa, les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain, les playoffs se poursuivent.
Eh bien, Houston et les Warriors sont qualifiés pour la finale, une finale rêvée de la conférence Ouest. Les Rockets ont battu le Utah Jazz 112 à 102 et les Warriors ont battu les Pelicans 113 à 104.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, l'opposition s'organise en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. L'avocat anglophone Akere Mouna s'est déclaré candidat à la présidence alors que son pays connaît depuis un an une crise en zone anglophone. Au micro de Raissa Girondin, il a abordé plusieurs sujets liés à l'actualité politique au Cameroun, la crise anglophone, la corruption, ainsi que les solutions possibles.
On a un régime, maintenant un gouvernement, complètement divorcé du peuple, un état de gouvernance vraiment désastreuse qui a abouti à ce qu'on appelle couramment maintenant la crise anglophone, qui est à mon avis une crise qui résulte d'une gouvernance qui a été complètement bafouée.
Mais votre candidature ne risque-t-elle pas de disperser les voix de l'opposition? Quelle est votre stratégie pour déboulonner le président Paul Biya?
On est au point où on galvanise, on amène les Camerounais à comprendre que aucune machine de fraude n'est au-dessus, n'est-ce pas, de la volonté du peuple. En ce qui concerne une stratégie gagnante, je pense que ça va se mettre en place au moment venu.
L'actualité au Cameroun est marquée par cette crise qui touche les régions anglophones. Le SDF, le principal parti d'opposition, exact, a tenu pour responsable le pouvoir. Quelle est votre solution pour venir à bout de cette crise anglophone?
Dans un premier temps, il faut changer de gouvernement. Parce que le gouvernement a montré ses limites. Il n'a pas de solution. La seule solution que le gouvernement trouve, c'est la répression. On en est où, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. On a un nombre quasiment égal de Camerounais qui sont déplacés à l'interne. Ça, c'est grave. Il faut un changement systémique assez profond qui prend en compte la jeunesse, parce que je vous dis carrément, le Cameroun n'est pas différent des autres pays africains où 70% de la population est en dessous de 30 ans. On a quand même un président qui a mis 36 ans et qui a 85 ans. À cet âge-là, même si on est très capable, on a tendance à déléguer. Et je pense que ceux qui bénéficient de cette délégation ont pris le pays en otage.
Je vais revenir sur votre carrière qui est marquée par votre combat dans la malgouvernance et la lutte contre la corruption. Que pensez-vous de l'opération Épervier anticorruption initiée par Paul Biya?
Mais ce qui m'embête, c'est ce que l'idée de punir très rapidement commence à causer des problèmes à ce qui concerne, n'est-ce pas, la procédure judiciaire. Et j'en connais pas mal de gens qui peuvent aussi être accusés des mêmes choses, qui sont dehors. Donc on commence à se demander si cette lutte contre la corruption ne cache pas derrière une autre volonté politique, n'est-ce pas, à régler les comptes avec certaines personnes qui auraient une pensée politique contraire. Le recouvrement est plus important, à mon avis. Moi, je serais allé plus dans le sens d'amener les gens à rembourser ou à payer ce qu'ils ont pris et trouver des solutions de ce côté-là qui sont des solutions dans le champ civil au lieu de continuer avec ce système où il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés puis avant d'être jugés et qui voient leur vie cassée carrément.
Akere Mouna, candidat à la présidence du Cameroun durant sa tournée à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les agents du plus grand hôpital du pays, l'hôpital Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou, ne sont pas contents de leurs conditions de travail et ils exigent des équipements adaptés pour la prise en charge adéquate des malades. Ces agents ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement devant le ministère de la Santé. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
Ils ont quitté l'hôpital Yalgado, des centaines d'agents, la plupart habillés en blouse blanche, direction le ministère de la Santé. Ils viennent décrier, selon eux, la situation délétère à laquelle l'hôpital fait face et remettre un message au ministre de la Santé. Amadi Konfé, secrétaire général de la sous-section du SINCHA, syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale de l'hôpital.
C'est un hôpital dont les capacités d'accueil sont dépassées, conduisant à hospitaliser les malades, surtout en situation d'urgence, dans les couloirs et même à ras le sol. Ce triste constat est fait au quotidien dans tous les services d'urgence. Les services manquent de tout. Le service de chirurgie viscérale est fermé depuis bientôt 2 mois, sinon plus de 2 mois. Paralysant du même coup les blocs opératoires de la viscérale et de l'urologie. Cette situation a certainement fait beaucoup de victimes dont Dieu seul connaît le nombre. Le CHIO devrait être fermé.
Le ministre de la Santé est absent. Les travailleurs sont déterminés. C'est le directeur des ressources humaines, Adama Sawadogo, qui réceptionne le message.
Vous pouvez être assuré, on a écouté le message, on l'a reçu, nous allons le transmettre à l'autorité qui va certainement vous revenir. Le dialogue n'a jamais été rompu au ministère, l'autorité était toujours disponible pour le dialogue. Donc, soyez rassurés, que l'autorité vous reviendra.
Des usagers de l'hôpital affirment que les conditions sont difficiles dans le plus grand hôpital du Burkina.
Ce qu'on demande à leur niveau, c'est vraiment la patience, quoi. Les docteurs, ils font beaucoup pour nous. On veut aussi que l'État essaye de les aider.
Il y a des fois aussi, quand on parle à Yaradou, on trouve même qu'il n'y a même pas assez de lits. Pour les malades, ils sont obligés d'amener des nattes pour se coucher à terre. En temps même, il y avait un bébé qui est décédé par manque de couveuses.
J'ai accompagné ma femme même à l'hôpital. Vraiment, je ne sais pas comment je l'ai dit. Il n'y a pas de matériel. Tous les malades, ils dorment dans le couloir. Il n'y a pas de lit pour dormir. Tout, il n'y a rien.
Pour les travailleurs de la santé, tous les services fonctionnent au ralenti à Yalgado. Et l'hôpital ne répond plus aux normes. Le syndicat exige l'équipement de tous les hôpitaux, sans quoi la lutte va s'intensifier. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La croissance pour 2018 ne devrait pas dépasser 4% en Afrique subsaharienne. D'après le FMI, les bonnes perspectives économiques mondiales, une hausse des prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux favorisent cette légère reprise. Cependant, elle reste insuffisante pour atteindre des objectifs de développement durable. Eric Manirakiza a joint à Libreville le directeur adjoint au département Afrique auprès du FMI, Dominique Deruel.
De notre point de vue, il y a quand même un certain nombre de pistes à suivre pour essayer d'obtenir une croissance plus élevée et une croissance qui permettrait d'avoir un impact plus important sur les conditions sociales et le bien-être des habitants d'Afrique subsaharienne.
Très souvent, on parle de croissance, mais des gens ne voient pas réellement l'impact sur leur quotidien.
Je dirais d'abord d'une manière générale, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, on constate souvent un décalage entre le moment où la croissance repart et le moment où dans les enquêtes d'opinion, les citoyens et les citoyennes déclarent ressentir un mieux, que ce soit au niveau de la consommation ou de l'emploi. De plus, je crois que ce qui est important peut-être de préciser est que ces bénéfices de croissance se font sentir, il me semble, à partir du moment où la croissance est non seulement relativement élevée, mais aussi soutenue au cours de plusieurs années. Ça a été par exemple le cas sur la plupart du continent africain entre 1995 et 2015, on a connu une croissance forte et on a vu cette croissance forte se traduire dans, par exemple, des indices au niveau de la santé, de l'éducation, mais entendu aussi au niveau du revenu par habitant de manière importante. Et donc, sur cette conclusion, les recommandations du FMI, nous cherchons à aider nos pays membres, y compris en Afrique subsaharienne, à vraiment avoir non seulement des périodes de croissance de 1, 2, 3 ans, mais vraiment des périodes de croissance soutenues sur 5, 10 ans, qui vraiment commencent à faire une différence et qui peut être perçue là par vraiment chaque citoyen et chaque citoyenne.
Vous relevez un problème d'assainissement des finances publiques. Où est-ce que vous situez le problème? Un manque de volonté des États ou des gouvernements?
Je crois qu'il y a deux aspects qui sont différents en fonction des conditions des différents pays. Nous avons par exemple au niveau des pays exportateurs de pétrole, un choc très très important en 2014, dont les effets continuent à se faire sentir, vu que ce choc était, en termes relatifs, peut-être le plus important que ces pays aient connu depuis le début des années 1970. Donc ces pays ont déjà fait des efforts importants au cours des deux dernières années pour assainir leurs finances publiques, mais il leur reste des efforts à faire pour vraiment finir cet assainissement. D'un autre côté, nous avons d'autres pays, par exemple comme certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont, pour des raisons tout à fait raisonnables, poussé l'investissement public de manière à offrir des conditions de croissance meilleures. Ça a été en soi une bonne chose. Ceci dit, il faut évidemment que ces besoins d'investissement public soient compatibles avec des finances publiques saines. Et ceci tend à la recommandation de dire qu'il est important de continuer les efforts de mobilisation des ressources fiscales afin de pouvoir à la fois concilier ces efforts de dépenses d'investissement, mais aussi des dépenses spéciales importantes et des finances publiques soutenables à moyen et long terme.
C'était Dominique Deruel, directeur adjoint au département Afrique auprès du FMI. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.